les Français, ils consomment 25 tonnes d'escargots par an. Et nous, les héliciculteurs français, on en produit 5.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Pour ce 9e épisode des Mains Libres, on est encore dans le Vaucluse, chez Marion, qui élève des escargots et plein de petites poules. Marion nous raconte comment elle en est arrivée là et tout le principe d'élevage qu'il y a derrière. J'espère que ça va te plaire et bonne écoute.
Peut-être, est-ce que tu peux juste te présenter?
C'est vrai, moi je suis Marion Gibier. Voilà, j'étais peut-être prédestinée à travailler dans la viande. et donc je suis hélicicultrice en Vaucluse à Bédouin depuis maintenant 2 ans et quelques. Et voilà, j'ai 37 ans et mon compagnon, je dis toujours ça, c'est important, Gaspard Cato, et c'est, vraiment il m'accompagne et c'est une aventure à deux autour de l'escargot.
Okay.
Donc voilà, là on est dans un parc, alors chaque héliciculteur va faire son parc en fonction de là où il se trouve. L'élevage, il est en moyenne, on va dire, en France, selon le climat, d'avril à octobre. Là où il fait très froid, ils vont commencer plus tard, finir plus tôt. Moi, je peux me permettre de mettre mes escargots fin avril et de les ramasser jusqu'à octobre.
Okay.
Et donc, on va faire notre parc en fonction de ça. Par exemple, moi, je vais utiliser du bois parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des toiles. Ça, c'est ce qu'on appelle des surfaces de collage et des mangeoires. Tout le long de mon parc, ça, je l'installe sur les haies que vous voyez. Et toutes les dosses qui sont situées autour du parc, je vais les positionner comme ça pour avoir ce qu'on appelle une structure en A.
Ouais.
Et en fait, mes escargots, ils vont se coller sur tout ça.
Dessous
Dessous, ouais. La journée dessous, à l'intérieur. Là, il y a du couvert végétal qui pousse normalement sur toutes ces bandes-là. Hein. C'est tout vert.
Ouais.
Et par exemple, dans le Nord ou en Savoie, ils vont mettre des tuiles. Moi, je mets des tuiles, mes escargots, ils brûlent l'été.
Oui, c'est ça.
Je fais le choix du filet à oiseaux parce que là où je suis, il y a beaucoup de jets. Donc, il y a beaucoup d'attaques ou des étourneaux qui viennent manger un petit peu pour les pertes. Quoi.
Ouais.
Il y en a qui, selon où ils sont, vont jamais s'enquiquiner à mettre un filet.
Oui.
Parce qu'ils n'en ont pas besoin.
Parce qu'ils n'en ont pas besoin, exactement. Là, ce que vous voyez, chose jaune que je suis en train de remettre en place, c'est mon système anti-fuite. Alors ça, c'est pareil. Il y a ceux qui vont mettre de l'anti-fuite électrique. Moi, ce n'est pas mon
anti-fuite
but.
Anti-fuite des escargots.
Ouais, anti-fuite escargots, parce que l'escargot fuit. Et quand on a 120... Moi, je mets 120 000 escargots, par exemple, dans mon parc.
D'accord.
120 000 escargots. Là, au-dessus, j'ai une pépinière et en dessous, j'ai un maraîcher. S'ils s'enfuient, ça va pas du tout.
Ouais.
Ils vont, voilà. 120 000 dans la serre du maraîcher en bas, en une nuit, c'est un carnage total.
Ouais.
L'escargot, mine de rien, il fait 9 km à l'heure. Donc, il va vite quand il va tout droit. Et une fois qu'il a décidé de manger, ouais, 9 mètres à l'heure. Voilà.
Oui, quand même.
Ouais. 9 mètres à l'heure. Mais c'est quand même énorme pour un escargot. Voilà, en une nuit, il peut très vite être en bas et aller hop et dire à tous mes potes.
C'est très bien où il va en plus.
Ouais, exactement. En sachant qu'il est hermaphrodite. Donc, il va se reproduire les deux, en fait. Ils se font un gâté. L'un est mâle, l'autre est femelle. L'autre est femelle, l'autre est mâle. Inversement, ils se lâchent. Et là, ils vont tous les deux aller pondre,
ouais,
en moyenne entre 80 et 100 œufs. Donc, ça va très, très vite.
Ah,
deux,
d'accord,
escargots, 200 œufs. Et 200 escargots.
Et ça peut en faire tous les combien?
Voilà. Ben, ça en fait. Dès que c'est réveillé, l'escargot, c'est un vrai lapin. On ne le dit, ouais, pas, mais ça ne vit que pour manger et se reproduire.
D'accord.
Ça ne fait à peu près que ça. Alors, sauf les 90 premiers jours de la vie de l'escargot, qui sont justement consacrés là au développement de cet organe sexuel qui prend tout le corps, parce que hermaphrodisme, c'est, d'accord, un mécanisme très bien conçu.
Très bien.
Donc voilà, moi, je fais le choix du système anti-fuite naturel. C'est un bout de moquette que je vais engluer de savon noir et, okay, d'huile de lin. L'escargot, il passe dessus, il mousse, il n'est pas content. moi, je fais ce choix-là parce que je peux aussi, je suis dans une région où il n'y a pas beaucoup de pluie.
Ouais.
Donc, ça ne va pas énormément lessiver. En Normandie, j'ai une amie, elle met ça, bah, elle est obligée de passer du savon noir toutes les 3 semaines. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Une nuit, si c'est beaucoup lessivé, bah, le lendemain matin, elle retrouve tout dehors. Voilà, vous voyez, c'est vraiment,
vraiment
en fonction de, voilà, de là où on est. Et je dirais même, quand on y est, j'avais fait le choix de la toile de mouton. Ben, qu'on voit là derrière, vous voyez, ça c'était des récupérations qu'un monsieur m'avait mis en place en rouleau. Et en fait, c'était super lourd déjà pour la cloison. Et alors, moi à la base, c'était top parce que c'était une première année, j'avais pas besoin d'investir. Et puis, système d'agrafe. Dans l'héliciculture, on a énormément de bricolage.
Ouais.
Et donc, il faut se ménager. Là, mon agrafeuse, elle passait pas. Il a fallu que je fasse 600 magasins pour trouver. Une possibilité d'eux, au final ça a fonctionné mal, donc ben on s'adapte, on arrache tout et là j'ai un ami qui m'a donné un bout de moquette, et ben c'est reparti. Voilà, c'est beaucoup de bricolage, beaucoup d'adaptation. Là en général, ben vous voyez, j'ai des restes, des collerettes, je mets des collerettes à chien pour éviter que mes escargots ne remontent justement, parce qu'après ils remontent
sur
le long du poteau, ils passent le long du filet, ils redescendent et ils vont dehors ou ils vont dans la rivière qui sentent là-bas.
D'accord.
Ouais, donc il faut vraiment les surveiller.
Vraiment
faut,
les surveiller.
Faut adapter
ouais.
tous les petits endroits où ils peuvent passer.
Après, le problème, le deuxième prédateur énorme, c'est le rat. Sous, j'ai un petit fil électrique, vous voyez, que je branche.
D'accord.
Quand on est en, quand il y a les escargots, c'est ce qui me permet aujourd'hui avec le piégeage de réduire un peu, on va dire, les rats. Mais les rats, c'est le prédateur en puissance.
Ouais.
Cette année, j'ai eu 15% de perte, 17 exactement, uniquement liés aux rats. J'ai pas eu de sécheresse, j'ai pas eu de maladie, j'ai pas eu de problème d'eau, j'ai pas eu de fuite, mais 17% que lié à un prédateur,
c'est beaucoup.
Ah oui.
C'est beaucoup, ouais. Je lui ai fait la chasse, la nuit, à la torche, on a mis des tas de pièges, hein, sous toutes les formes. Donc voilà, là, à ce stade-là, je répare mon parc, je remets les filets en route, je remets tout le système d'irrigation, moi je dépends du canal, donc qui a été rallumé il y a quelques jours. Et mon but, ça va être de rapidement installer mon nouveau système anti-fuite pour pouvoir rapidement irriguer, nettoyer cette partie-là et rapidement faire monter un couvert végétal. L'année dernière, à la même période, j'étais toute verte. Là, cette année, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Il va falloir que je compense avec de l'eau, malheureusement. Ce n'est pas ce que j'aime faire, consommer de l'eau. Mais je n'ai pas le choix parce qu'il faut, eux, pendant l'élevage, déjà qu'ils mangent, une partie du couvert végétal, parce qu'on leur donne de la farine végétale que moi j'achète dans un moulin bio. Mais le but, c'est qu'ils mangent quand même du vert, de la verdure, c'est ce qui donne du goût. Trèfle, plantain, moutarde sauvage, carotte sauvage.
Ça, tu le sèmes ou c'est naturel?
Alors, il y a une grosse partie, moi, qui va pousser naturellement. Et je resème, par contre, souvent ce que j'appelle les hautes herbes, du sainfoin ou du foin, qui là n'est pas pour l'alimentation de l'escargot, mais c'est vraiment pour l'ombrage.
D'accord.
Pour que ce soit haut dans l'été et qu'il puisse être au frais. Et après, moi, ça me sert quand je le récolte, ou les tournesols. Les tournesols, c'est les pépites pour les poules. Et le sainfoin, il me part aux brebis. D'accord. Donc, ça me fait un cycle qui sert pour tout le monde. Et donc, ça, souvent, je resème, ouais, obligatoirement. Voilà, donc là, c'est le but. Et après, fin avril, alors moi, je ne fais pas de reproduction. La reproduction se fait à Plaisian, chez les gens chez qui j'ai appris à travailler. La reproduction, en fait, on sélectionne des reproducteurs au moment de la récolte des escargots en octobre, qu'on va mettre en hibernation et qu'on va laisser en hibernation. On va les réveiller au mois de janvier-février. On les met dans des bacs. Alors ça, c'est pareil. Chaque école, chaque ferme a son école, quoi, a sa façon de faire. Donc souvent, c'est des bacs dans un local ou alors ce qu'on appelle des hamacs de bois sous des serres. Moi, ma serre est faite pour ça. Dans 2 ans, normalement, je dois faire la reproduction là sur place.
Ouais.
Et on va démouler les pontes d'escargots par un système de gouttières. On sait à peu près où ils pondent. Et là, on va les mettre en incubation 3 semaines. Et moi, je vais chercher mes petits escargots qui sont des têtes d'épingle à Plaisian. Et là, je les mets dans le parc qui, à ce moment-là, est prêt. Donc fin avril, début mai. Et là, je ne rentre plus pendant 15 jours parce que je ne les vois plus. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont tellement petits et translucides qu'on les laisse se développer la première quinzaine. On prie pour pas qu'il y ait de gros orages, de grosses intempéries. Et après, ben, on va rentrer tous les jours, surveiller les maladies, comment ils grossissent, s'il n'y a pas trop de transhumance, parce que des fois, ils ont tendance à tous stockés au même endroit. S'ils mangent bien, alors nous, on leur donne tous les deux jours un peu de farine sur les mangeoires, là en haut. On arrose ensuite le soir. Ils vont sortir toute la nuit, faire leur vie, manger. Au petit matin, quand j'arrive, il est allé 7 heures l'été. Ils sont déjà en train de rentrer, il reste les résistants. Et après, ils passent toute leur journée cachés sous les dosses.
Dans les trios, enfin dans les A. Du coup.
Dans les structures en A,
ça,
exactement.
Ça, c'est vraiment un peu leur maison.
Complètement.
Ah oui.
D'accord. Et tu disais que c'est 90 jours le...
Alors 90 jours pour qu'ils deviennent sexués.
C'est ça. Et du coup, en fait, ces escargots que tu mets au début avril, oui. Avril-mai, eux, après, ils vont se reproduire
ici. Ils vont commencer à se reproduire au bout du 100e jour.
Ouais.
Et moi, là, j'ai pas le choix que de les laisser se reproduire dans le parc parce qu'il faut quand même que j'atteigne un stade de développement pour pouvoir les récolter et les abattre et les commercialiser. Et donc, du coup, ils vont se reproduire, ils vont manger, ils vont grossir. Et moi, c'est au stade de la récolte où là, je découvre, en général, ils font des petits trous ici, le long de mes allées.
Ouais.
Et ils pondent. Et là, quand j'enlève tout le parc, je tombe sur des millions de petites pontes et mes canards se jettent dessus.
D'accord. Mais du coup, en fait, tu n'as qu'une génération d'escargots par saison.
Exactement. J'ai qu'une génération, ouais.
Tu ne fais pas grandir les bébés.
Les bébés, non. Je ne peux pas parce que... Enfin, je ne peux pas. Je pourrais les faire grandir au naturel, là, dans le parc. Mais le problème, c'est que je ne sais pas combien ils sont. Et donc, du coup, après, je risque d'être en surpopulation. Moi, je ne suis pas en bio officiel. Je ne paye pas les taxes, mais je respecte toutes les normes bio. Je suis en raisonnée. Et donc, il nous faut entre 250 et 300 maximum escargots au mètre carré.
D'accord.
Et si je ne fais pas ça, je ne sais pas combien j'en ai.
Oui, et puis tu n'es pas capable de gérer leur alimentation.
Exactement.
Etc.
Et pareil, la surface de collage. Là, mes mangeoires sont installées et mes dosses. J'en ai un nombre précis que j'ai calculé. Par rapport à 120 000 escargots, j'ai besoin de tant de surface de collage pour qu'ils puissent tous avoir un endroit où se poser. Donc, je vais mettre tant de doses.
D'accord.
Là, ce parc-là, il est fait pour un maximum de 120 000 escargots.
D'accord.
Si je veux m'agrandir demain, il faut que je fasse un autre parc.
Tu as un dimensionnement qui est très précis. Et
ouais, là, j'ai 400 mètres carrés. Et dans 400 mètres carrés, je ne peux pas faire plus de 120 000 escargots, mon rapport de densité.
Mais c'est pas compliqué. Tu dis que la reproduction se fait à côté. Donc, tu demandes
à
peu près 120 000 escargots.
Exactement. Ça reste toujours un environ dans les escargots parce qu'on ne peut pas savoir exactement une ponte d'escargots. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est des tas de petites boules collées en une seule boule avec une genre de mucus autour. Donc, on ne peut pas effectivement les compter un par un. Donc, on fait toujours ce qu'on appelle une moyenne. Et il y a des gens qui ont travaillé sur ça à la base. Et
c'est
donc,
au poids ou c'est
C'est pas au poids, enfin c'est au poids, mais après ils ont vraiment calculé combien et ils savent que le petit gris va produire entre 60 et 80 escargots, le gros gris va en produire entre 80 et 100, le blond des Flandres va en produire entre 50 et 60. Voilà, ça a été étudié.
Ça c'était
étudié,
une question que j'avais, tu as une seule...
Moi j'ai une seule variété, ouais. Enfin j'ai fait deux variétés l'année dernière, j'ai mis un peu de petit gris au milieu. Mais le petit gris, c'est d'autres recettes. C'est vraiment traditionnel de la Méditerranée et souvent, les gens l'achètent vivant. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les foires aux escargots. Ici, les gens repartaient avec leurs bourriches. Et aujourd'hui, ça se vend moins. Les gens, on est quand même dans l'ère de « je veux consommer rapidement ». Et du coup, ça leur fait trop de travail.
D'accord.
Et du coup, après toute cette phase de production, tu parlais de cuisine tout à l'heure.
Après toute cette phase de production, voilà, je vais récolter. Donc ici, déjà, j'ai un gros travail de récolte pendant un bon mois. Je commence de tout au bout. Je commence d'ici. J'enlève la première tranche de tout mon bois. Je vais tout ramasser. Je vais tout sortir tous les jours. Parce que si je ne sors pas la nuit d'après... Tous les escargots qui sont encore là vont revenir se coller sur les premières surfaces.
D'accord.
Et ça ne s'arrête jamais. Donc, je vais enlever le bois pendant un mois au fur et à mesure et enlever tous les escargots. Chaque matin, je suis obligée de repartir du bout parce qu'ils ont voulu voyager. Et après ça, donc, je vais faire des filets. Là, ils sont vivants. Je vais aller les mettre en chambre froide. Je vais vous montrer là-haut.
On va
s'avancer. Ouais. Je les mets en chambre froide. Pendant au minimum 15 jours, 3 semaines, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Alors, ce n'est pas le jeûne comme à l'époque où on le mettait avec du thym, du romarin, parce que ça, ce n'est pas un jeûne. Un jeûne,
c'est rien du tout.
Voilà, il faut qu'ils fassent caca tout ce qu'ils ont dans l'intestin. Et donc, 15 jours, 3 semaines minimum pour qu'ils soient... ils soient vides. Et c'est à ce moment-là que là, je vais commencer à les abattre.
D'accord.
Et je ne peux pas abattre la totalité du cheptel que j'ai récolté en une fois, parce qu'on parle, là par exemple, j'avais 2 tonnes d'escargots vivants, ce qui me représente 500 kilos d'escargots abattus.
D'accord.
Moi, je vais partir avec en général 400 kilos d'escargots vivants et je vais finir avec 100 kilos d'escargots abattus. Donc, je fais plusieurs sessions.
Ouais.
Je vais 10 fois au laboratoire pour abattre. Là, j'ai transformé mes escargots, ce qu'on appelle en chair blanchie, c'est-à-dire qu'ils ont juste été abattus dans une marmite. Je les ai tous sortis un par un de la coquille,
ouais.
Puisque c'est du gros gris, il faut que j'enlève le foie. Donc, je les ai parés et je les ai blanchis 20 minutes dans de l'eau. Je les mets au congélateur une première fois parce que ça casse la texture de l'escargot. On en passe toujours par là. Et puis sanitairement, c'est
important.
Ouais. L'escargot, c'est un mollusque, c'est un allergène. Et c'est vraiment d'énormes... Ça reste de la viande. Mollusque, c'est complexe.
D'accord.
Il faut faire attention à ce produit-là. Et c'est seulement là après. Donc une fois que je vais avoir tout abattu, j'ai tous mes escargots en chair blanchie dans le congélateur, que là, je vais, on va dire ponctuellement... Dans l'année, quand j'ai besoin, prendre 20 kilos d'escargots blanchis que je vais aller transformer en coquilles ou en bocal. Alors quand je vais en bocal, je prends 40 kilos selon la préparation que j'ai besoin. Pour vous faire une idée, quand je prends 20 kilos d'escargots en chair blanchie que je vais les transformer en coquilles, ça représente à peu près 6000 coquilles par jour.
Ouais.
Et on est 3 à faire ça et on fait que ça. Toute la journée, on fait que des coquilles. C'est répétitif et au stade où je vends l'escargot, j'ai calculé, il est passé à peu près 15 fois dans mes mains. Donc on fait 120 000 fois 15. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des gens sur le marché qui me disent « Ah, dis donc, vous êtes cher !» Alors je leur dis « Mangez des chips à l'apéro !» Parce que je ne peux pas faire mieux. Quoi.
Ouais, ouais.
Au prix, rien n'est... tout est manuel dans l'escargot, de A à Z, de la reproduction... jusqu'à l'assiette, je dirais même, parce qu'il faut le décoquiller pour le manger. Il n'y a pas de machine, ça n'existe pas dans l'escargot. Après, il y a des cuiseurs, des grosses machines, les surgélateurs et tout au labo, hein. Mais on n'a pas de machine, on n'a pas de calibreuse, on n'a pas... Voilà, tout ça, c'est fait à l'œil ou à la main.
Je voulais juste revenir 2 secondes sur ce que tu expliquais tout à l'heure. Tu disais que les béliers, ça te permettait de défendre les escargots contre les sangliers.
J'ai la clôture électrique contre les sangliers.
D'accord.
Et c'est les brebis qui m'entretiennent vraiment, qui me permettent de tondre. La première année, je les avais pas menées et j'ai passé ma vie
à débroussailler.
Même en étant dans le sud, alors je me dis mon Dieu, comment font-ils en Normandie, en Haute-Savoie. Mais au bout d'un moment, c'était plus gérable entre les marchés, la vie de famille, tout le boulot. Moi, en fait, mon compagnon est viticulteur. Et à la base, on avait un double emploi. J'étais éducatrice et je l'aidais un peu dans les vignes. Et lui était facteur et avait les vignes. Et puis, on a décidé de se reconvertir il y a 3 ans.
D'accord.
Et donc, lui est viti et maître sur les escargots. Moi, je suis sur les escargots et je l'aide en viti. Donc, je vais attacher les vignes, faire des petites choses. Donc ici, c'est la ferme où a grandi mon compagnon. Et c'est essentiellement voilà, la vendangeuse. Là, on est vraiment côté raisin.
D'accord.
Chez nous, il n'y a pas de...
J'avais jamais vu...
Une vendangeuse, ouais, c'est une belle machine.
C'est énorme. Hein,
c'est une belle machine. Et donc là, moi, c'est mon petit côté, ma chambre froide. Voilà, ça, c'est vraiment... Alors, je vous préviens, l'escargot a une odeur particulière. Et là-dedans, j'ai des coquilles vides que je n'ai pas nettoyées. C'est particulier. Voilà, moi, je ne sens plus, mais je sais, les gens me disent toujours « Boah !» Et quand ils sont dedans, voilà, c'est une odeur qui est 1000 fois plus importante. Alors voilà, les escargots, c'est une vie de congélateur et de caisse. Ça, n'importe quel héliciculteur, peu importe sa méthode de travail, il ne peut pas y réchapper. Moi, c'est Grand Frais, mon fournisseur officiel. Tu peux laisser ouvert, il faut juste que je bloque, la porte. Et ouais, non. Moi, je vais faire des filets au ramassage de 4 kilos parce que je trouve que quand j'ai un filet de 4 kilos, j'ai peu de mortalité que je vais mettre dedans. Donc, on voit encore les cacas des escargots. Ça, c'est nettoyé avant chaque réutilisation. Et je vais les stocker ici entre 5 et 7 degrés après récolte, les 3 semaines où je vous dis de jeûne. Et ben, pour, je vais d'abord cuisiner les premiers que j'ai ramassés. Et les derniers, là, cette année, j'ai fait tourner la chambre froide 2 mois environ. J'ai mis 2 mois pour tout abattre. Et ensuite, je l'éteins et elle me sert de stockage pour tout ça. Sachez qu'il y a une énorme quantité au-dessus, entre le toit de la grange et le toit de la... Voilà, des empilés au millimètre près. Et ça, vous voyez, c'est quand j'ai fini. Donc, quand je reviens du labo, que je suis allée faire des coquilles ou que j'ai, enfin, qu'on a abattu, eh ben, on revient, on a enlevé donc tous les escargots de toutes les coquilles. Donc là, elles sont sales. Elles ont déjà pris un premier jet quand même. Et ça, c'est pareil, j'ai un process pour les nettoyer. Et donc, je les nettoie d'une manière particulière. Je les envoie au laboratoire pour qu'ils me les analysent. Et c'est après là-dedans que je vais réencoquiller. Donc ça, c'est toutes mes belles coquilles de mon année. Toutes les mauvaises, quand on fait la manip, on va les mettre de côté. Tout ce qui est cassé, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est pas beau. Moi, en plus, je suis exigeante. J'aime bien avoir des belles coquilles. et donc ça, on va jeter et ça part à l'écarissage avec le foie et tout le tralala de l'escargot.
D'accord.
Parce que mine de rien, on se dit, oh, tiens, écarissage, ouais, cheval, brebis, l'escargot, c'est énormément de déchets, ouais, quand on va travailler.
Des quantités aussi, aussi grandes, aussi importantes.
Voilà. Donc là, bah après, j'ai un congélateur ici. Celui-là n'est pas en route. Chez moi, j'ai 3 congélateurs comme ça, plus un demi-congélateur comme ça, plus un petit, plus un de marché vitré. Voilà. Ça, c'est dès que le début, apparemment. Y a certains héliciculteurs qui ont des grosses productions qui fonctionnent carrément avec une chambre froide positive comme celle-là pour l'hibernation.
Ouais,
et une chambre froide négative
pour la conservation.
Pour la conservation et des frigos énormes. Alors moi, c'est un peu du en attendant. Entre guillemets, j'ai quand même fait les choses, j'ai essayé de les faire proprement. Mais en fait, le but du jeu, c'est de pouvoir me construire un hangar là-bas, un hangar ouvert, sous lequel je mettrai ma chambre froide, mon espace de stockage, et que je ferai un petit laboratoire. Parce qu'à l'heure actuelle, je loue un laboratoire, on va se réavancer, un laboratoire à Valréas pour tout ce qui est surgelé, abattage, et je loue un autre laboratoire, donc d'héliciculture, parce que c'est un matériel spécifique, à Saint-Rémy-de-Provence, là où j'ai l'autoclave, pour pouvoir faire mes bocaux. C'est... Je ne vais pas me plaindre, ça se fait, mais c'est des frais déjà pour moi qui vont se répercuter sur mon coût de revient.
Ouais.
Et secondo, c'est assez compliqué pour certaines opérations, comme par exemple l'abattage. En fait, aujourd'hui, on a une norme en France, on doit abattre un escargot qui est endormi. On ne fait plus comme nos grands-mères, les passer au sel, au vinaigre, tout ça, c'est de la souffrance animale.
Ouais.
Ça n'améliore rien, au contraire, ça abîme la texture de l'escargot. Voilà, ça, on ne le fait plus. Donc nous, il est en hibernation, doublement operculé. Le problème étant que quand moi, je fais mon heure de route avec mes 400 kg d'escargot derrière, les vibrations, pour peu qu'il pleuve, ça m'est arrivé l'année dernière, une grosse pluie. Je suis arrivée, tout le monde était réveillé. Donc là, eh ben, il faut tricher, entre guillemets. On va les mettre sous ventilateur pour qu'ils re-rentrent dans la coquille parce qu'ils n'aiment pas le vent.
D'accord.
Et on va se dépêcher à ce moment-là de les abattre. Mais moi, tout le temps du ventilateur, je paye mon laboratoire et puis je suis à 1 heure de chez moi, je brasse de l'air. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Et en plus de ça, c'est une triche.
Oui,
l'escargot, il s'est réveillé entre-temps quand même.
Ça apporte un certain nombre de contraintes, etc. Donc tu l'endors, en fait, dans la chambre froide.
Exactement. En chambre froide, ils s'endorment. Comme ils s'endormiraient au naturel, je sais pas s'il a bougé, j'en ai un. Parce que j'en ai quand même des... J'en ai un petit gris par là, là. Je l'ai vu hier.
Et est-ce que tu parlais tout à l'heure de contraintes sanitaires, par rapport à l'image, etc. T'as beaucoup de contraintes par rapport à ça
J'en ai beaucoup au labo. Ouais, énormément. Plan de maîtrise sanitaire, tout ce qui est règles HACCP... Mais après, pour être allée en formation, bah, je l'ai appris, j'ai appris à le faire. Je ne suis pas plus bête qu'une autre, ça se fait.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'éternellement, comme tout producteur, je pense, on a la peur du contrôle. Parce que bah, voilà, ça, il ne faut pas le faire, le carton, il ne faut pas le poser là. Et que voilà, on essaye de faire au mieux, mais j'imagine qu'il y a des petites choses que je ne fais encore pas correctement ou que je ferais même peut-être... Mais ouais, ça, il y a quand même énormément de normes liées à ça. Après... Moi, je le vis pas comme une contrainte parce que mon but, c'est de pas empoisonner les gens. Et donc, je le fais naturellement. Et au contraire, c'est quelque part, la carotte qui fait que voilà, faut que ce soit fait comme ça. C'est un peu mon directeur, je dirais.
Ouais.
J'ai pas de directeur aujourd'hui, je suis mon propre chef, mais non, pas totalement. Il y a ça, il y a un cadre qui est posé et quelque part, ben, c'est rassurant parce que si je le respecte bien,
oui,
normalement, il y a pas de souci.
Non, puis c'est encourageant de se dire que tu as fait une formation qui a quand même été assez rapide, j'ai l'impression. Mmh. Et que tu arrives à t'en sortir correctement.
Ouais, il faut compter aller un an en tout. J'ai fait un an, j'ai fait 5 mois à l'école et j'ai fait beaucoup de laboratoires et d'élevage directement dans l'entreprise. Ouais.
Ouais.
Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai tout cuisiné, j'ai tout ensaché, j'ai fait mes étiquettes, tout le tralala, là je vais arriver au stade de la commercialisation. Et je vais le faire beaucoup sur les marchés, beaucoup de ventes directes, parce que moi, c'est mon entreprise, il faut que je fasse 70% de ventes directes. Ouais. Un petit peu au restaurant, parce que j'ai cet avantage d'en avoir une paire par ici.
Mais tu parles du coup de comment tu vas cuisiner tes escargots. C'est ma question, c'est
oui.
Comment tu les cuisines, comment tu les vends, sous quelle forme et...
Alors moi, je les vends en coquilles ou en croquilles, c'est-à-dire l'escargot farci qu'on connaît traditionnel, où on met dans une coquille et on met un beurre. Après, je peux travailler plusieurs beurres différents. Donc, j'ai le beurre à la bourguignonne, basique, ail, échalote, persil, sel, poivre. Mais j'ai aussi un beurre au basilic. J'ai un beurre à l'ail des ours. Okay. J'ai fait ma formation en Savoie et c'était dans un domaine où il y avait de l'ail des ours de partout. L'escargot à la base est à l'ail. Je me suis dit, voilà, c'est sympa de faire un truc un peu plus doux, un peu plus herbacé. Et puis, ça a du sens. Mon école était là-haut. Et après, je vais faire des bocaux, bocaux à la provençale, au courbouillon naturel. Ça, les gens vont, eux, le manger comme ils veulent. Et après, on développe, les illiciculteurs, ces dernières années, des petites gammes apéro. Donc, ça va être des petits escargots à piquer, marinés et confits dans de l'huile avec différents petits aromates ou des petits tartinables, ce qui permet d'agrandir un peu le choix des escargots, la gamme. Et puis de se faire un petit peu plaisir, d'avoir différents goûts que la coquille vraiment traditionnelle.
Ouais. Il y a un marché en France des escargots, ça fonctionne ça...
Ouais, complètement. Les Français, ils consomment 25 tonnes d'escargots par an.
Oui.
Et nous, les héliciculteurs français, on en produit 5.
Voilà. J'avais un peu anticipé cette question en me disant combien d'importations, etc. Donc en fait, il y a vraiment un marché.
D'escargots roumains qui, pour le coup, eux, sont passés au sel, au vinaigre, dans la souffrance animale, etc. Et puis les pauvres gonzesses que je compatis ramassent des escargots avec des gamins sur le dos et des seaux et elles sont payées en gros 2,15 € la journée.
Ouais.
Là, de ces escargots-là, il y en a 20 tonnes.
Tu conseilles aux jeunes de s'installer.
Tu conseillerais à des gens de s'installer.
Alors, je conseille aux gens de s'installer. Par contre, je conseille de vérifier la concurrence autour de chez soi. Moi, je l'ai fait ici parce qu'il y avait un monsieur dans un village d'à côté qui faisait ça depuis 20 ans, qui est décédé et qui ne le fait plus. Parce que c'est vrai qu'en termes de concurrence, deux héliciculteurs sur un marché,
oui,
je pense
trop.
Que ça, ouais, voilà, ça doit être dur.
Oui.
Mais je conseille aux jeunes de se lancer. Après, ce que je dis souvent, enfin ce que j'ai dit à d'autres stagiaires avant vous, c'est pensez pas que c'est si facile que ça. Je le dis vraiment parce que si vous avez envie, faites-le. C'est une super aventure. Moi, je kiffe ce travail, je kiffe ce boulot. Les gens t'appellent Madame Escargot. Dès qu'il pleut, tout le monde est content de te voir. Merveilleux. Mais ça demande un investissement. Et après, je pense que moi, j'ai fait que celle-là. Mais je pense que pour toute entreprise, en fait, c'est plus ou moins la même. Il y en a peut-être des plus faciles, parce que bon, ça, c'est de l'élevage. Mais si on est motivé, ouais, carrément, il y a du débouché. Hein. Et si les Français pouvaient manger que des escargots français,
ouais, ça serait
moi, j'ai
déjà une bonne
concilié
chose.
Des gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas l'escargot. Et je leur ai dit, c'est la texture, c'est... Je leur ai expliqué ce que je vous ai dit, les changements de procédure aujourd'hui. Et ils m'ont dit, j'aime ça, c'est bon. Et puis pareil, des recettes où moi je vais mettre moins de sel, je vais mettre plus de produits frais, les gens adorent mon beurre, ils me disent toujours il est trop bon. Mais voilà, il faut réconcilier les Français avec ce produit.
Mais du coup, ça m'amène à une question, comment tu t'es formée? D'où ça t'est venu cette idée de faire des escargots?
Cette idée, elle m'est pas venue à moi, elle est venue à mon compagnon. En fait, il y avait une vigne en bas, ça fait 17 ans maintenant qu'on est ensemble. Et elle y était donc il y a encore 17 ans. Elle était envahie d'escargots. Quand il travaillait dedans, il écrasait tout. Je lui disais, tu fais des génocides. Elle était très vieille. Il a décidé de l'arracher. Mais à cette époque-là, il m'a dit, t'as qu'à faire des escargots.
Okay.
Je n'ai pas relevé. On a continué notre vie. Et quand j'en ai eu marre, j'ai fait 16 ans de social. Au bout d'un moment, il fallait passer à autre chose. Il m'a redit, on a l'eau, fais des escargots. De là, je me suis dit, je vais aller voir une paire d'héliciculteurs. me renseigner sur la formation. Si je suis bien reçue, je le fais. J'ai okay. été merveilleusement bien reçue par les gens qui travaillent à Plaisian, qui sont mes collègues aujourd'hui, et même pas mes concurrents, c'est vraiment mes collègues. Et c'est parti de là, j'ai appelé en Savoie pour en formation, ils m'ont pris. Je suis allée manger chez une amie, je lui ai dit, elle m'a dit, super, ma mère habite à côté, elle va te loger. Voilà, vraiment, les choses se sont enchaînées. Et donc, j'ai fait 5 mois de formation à la Motte Servolex à côté de Chambéry. Il n'y a que 2 écoles en France, Château Farine à Besançon ou la Motte Servolex à côté de Chambéry. Et donc moi, je suis allée là-haut. Et après, j'avais déjà fait 8 mois de stage à droite à gauche, donc Valréas, Plaisian, Saint-Rémy. D'accord. Et parce qu'il faut faire quand même, il n'y a pas de secret dans l'escargot. C'est pas compliqué, mais il faut faire. Et la formation, effectivement, je l'ai fait parce qu'on m'a 95%... Des gens qui se lancent dans les l'hésiculture n'ont pas fait de formation. Et sur ces 95%, il y en a 90 qui ferment dans les 2 ans.
Ok.
Et quand je suis allée en formation, je me suis dit, ouais, quand même. Parce que sur le coup, on a l'impression que c'est un tout petit animal. Mais en fait, il faut savoir plein de choses. J'ai quand même 5 gros classeurs de formation. Ouais,
que tu réouvres régulièrement.
Ouais, ça me fait presque autant, on va pas dire, mais que le diplôme d'éducatrice, quoi. Ouais. Et pour aujourd'hui, moi, gagner ma vie en mettant 120 000 escargots, que je vends tous en vente directe, je gagne 32 000 euros, ce à quoi j'ai enlevé 22 000 euros de charges. Et j'ai travaillé, elle peut vous dire, les 2 premières années, là, ça se calme, mais j'ai fait que travailler. Ouais. Je rentrais chez moi, la nuit, je passais sur l'ordinateur, marché, labo, élevage, bricole, ça ne s'arrêtait pas.
Ouais. Et donc, ça fonctionne pour toi, les futures années, tu vas réussir à
oui.
être... À travailler que sur les.
Oui,
sur les
déjà escargots. Dès cette année-là, ça se réduit un petit peu et moi je m'organise mieux pour mes marchés et surtout j'ai beaucoup moins de charges. Sur mes 22 000 euros de charges que je vous dis là, l'année prochaine j'en aurai beaucoup moins parce que je n'ai pas réalisé un parc en plus. Donc ça va s'établir. Par contre, si je veux vraiment gagner ma vie et avoir un salaire, il faudra que je refasse un deuxième parc comme celui-ci, donc repartir sur 2 ans. Comme je viens de passer là.
Avec des investissements.
Voilà, d'où le fait que je laisse 2 ans pour me poser. La reproduction devrait arriver parce que les gens de Plaisian vont prendre leur retraite.
D'accord.
Les héliciculteurs de là-haut. Et là, du coup, je repartirai sur 2 ans de combo. Reproduction, nouveau parc. Et...
Mais donc... j'avais une question par rapport à ça. Bon, est-ce que tu as eu des aides? Est-ce que tu es passé par...
Non. Alors, non, j'ai eu aucune aide. Le métier d'héliciculteur, il n'est pas vraiment réglementé. Voilà. Et alors, c'est mon compagnon, pour la petite histoire, lui qui fait les vignes depuis toujours, mais qui est allé passer son BPREA. Ouais. J'aurais pu faire ça, mais j'aurais pu avoir la DJA juste liée au BPREA, au fait que je sois jeune agricultrice. Mais nous, on a fait le choix que ce soit lui qui le passe. Il est allé en formation, ça lui a aussi permis de prendre du recul sur une pratique. Lui, il est fils de vigneron. Donc, il faisait son boulot et il se disait, moi, je sais faire. Quand on va en formation, on se dit « Ah ouais, mais ça, je ne connaissais pas. » Et c'est cool, on prend du recul.
Donc,
et
il a fait
final,
BPREA.
Il a fait BPREA et c'est lui qui sera... là, il quitte sa boîte, donc on fait tout ce schmilblick. Et après, il sera le chef d'exploitation des escargots et de la viticulture. Et moi, normalement, je devrais basculer salarié.
Donc, un BPREA en héliciculture, ça n'existe pas?
Non. C'est pas vraiment que ça n'existe pas. En fait, tu peux faire un BPREA, mais bien souvent, à part si tu es à Château Farine ou à la Motte Servolex, tu vas faire une très grosse partie de ton BPREA là où tu es.
Ouais.
Et on va t'envoyer à l'école, à la Motte ou à Château Farine pour une petite partie. D'accord. Ou pour des stages. Ouais. Voilà. Mais j'aurais pu faire mon BPREA à Serre et partir... Moi, avec les 2 gamins en bas âge, ça m'arrangeait d'aller faire une vraie formation et de lui laisser les gamins la semaine et de m'en aller me concentrer okay. Sur mon futur avenir.
Très bien. Dernière question.
Du coup, on n'a même pas présenté.
Non,
on fait un podcast qui s'appelle Les Mains Libres.
Oui.
Notre thème, c'est les métiers manuels en général, d'artisanat et d'agriculture. Donc, ça tombait bien parce que tu fais un peu les deux avec la cuisine, la production, etc. Et du coup, notre dernière question qu'on pose tout le temps, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire de tes mains? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à ton métier manuel? Et voilà.
Eh bien, étonnamment, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps parce que je me suis plein de douleurs à mes mains. Ce que je voudrais, c'est qu'elles fonctionnent encore longtemps parce qu'elles m'apportent tellement de choses, elles me permettent tellement de m'épanouir. que ouais, c'est ce que j'aurais envie de leur dire, qu'il faut que je les chouchoute et qu'elles me fonctionnent encore bien longtemps.
Bah, c'est
pour,
super.
Prendre tous ces petits escargots.
Bah, merci beaucoup.
Bah, je vous en prie, merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé cette discussion, comme d'habitude, n'hésite pas, tu t'abonnes à la chaîne. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire. Cet épisode a été financé par Nicole, alors merci infiniment pour ton soutien. Dans le prochain épisode, on t'emmènera à la rencontre d'Henri qui cultive des tas de variétés de piments. C'est génial. Allez, à dans 2 semaines.